Il y a un tas d'artistes qu'on a un peu oubliés. Alors on va essayer de les remettre sur le devant de la scène.
Valentino, sweet flower of New Mexico.
On se met un disque. T'as entendu ça? Ça, c'est God is a Dog, le morceau d'ouverture de l'album Indian Summer sorti par le groupe du même nom en 1971. Indian Summer n'a sorti qu'un seul album, mais quel album ! Ce groupe anglais à la courte durée de vie, environ 4 ans, n'a clairement pas pêché par manque de talent, mais a payé certaines mauvaises décisions, rares, certes, mais qui ont clairement eu un impact sur la suite de sa carrière, en plus de manquer de chance, mais ça, c'est plus ou moins le lot de quasi tous les artistes qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, et Indian Summer n'échappe pas à la règle, malheureusement. Indian Summer est essentiellement le fruit de l'union de deux hommes, originaires de la ville anglaise de Coventry, proche de Birmingham, Paul Hooper et Bob Jackson. Durant leur adolescence, au milieu des années 60, les deux garçons déjà passionnés de musique et bien déterminés à faire carrière font déjà partie de plusieurs groupes amateurs comme This, That and The Other et The Rochester Bix, avec lesquels ils jouent vite fait à droite à gauche, avant d'intégrer par la suite deux nouvelles formations, The Perfumed Garden entre 66 et 67 et Acme Patent Electric Band entre 67 et 68, avec lesquels ils vont s'employer à s'améliorer en reprenant des morceaux soul. Et Acme Patent Electric Band commence même à se faire une petite réputation au niveau local grâce à sa capacité d'improvisation et aux accessoires de scène utilisés pour accentuer l'effet dramatique de ses prestations. Bob Jackson, qui faisait essentiellement office de pianiste dans toutes ses formations, réussit finalement à économiser suffisamment pour s'acheter son propre orgue Hammond, instrument désiré depuis déjà pas mal de temps, et après son obtention, il va se lancer dans la création, toujours en compagnie du batteur Paul Hooper, de la première mouture d'Indian Summer vers la fin de l'année 1968, le nom étant une référence au fameux été indien dont Joe Dassin nous a causé il y a pas mal de temps. Une campagne de recrutement est alors menée qui les amène à engager le guitariste Roy Butterfield et le bassiste Alan Hatton pour compléter la formation. Cette première incarnation va dans un premier temps prendre ses marques en jouant durant ses concerts des reprises d'artistes tels que Frank Zappa, Jimi Hendrix ou Blood, Sweat and Tears, avant de développer petit à petit un répertoire propre. Le groupe, encore jeune, doit alors souvent se débrouiller par lui-même pour trouver des salles qui veulent bien les embaucher et pour transporter son matériel, et c'est dans le but de régler ce dernier problème que ses membres vont faire l'acquisition d'une camionnette Black Maria. Information qui n'aurait aucune importance si cette appellation ne désignait pas en fait les fourgons cellulaires anglais, le groupe étant de fait régulièrement arrêté par les autorités cherchant à savoir qui utilise un de leurs anciens véhicules. Alors que la popularité d'Indian Summer grimpe peu à peu, Roy Butterfield, le guitariste, décide soudainement de tout plaquer sans explication et d'abandonner son poste, celui-ci étant rapidement récupéré par Steve Cottrell, un guitariste blues ayant fait ses armes au sein d'un groupe appelé Southside Loop. Ce contretemps n'empêche cependant pas nos musicos de continuer à monter auprès du public et de quitter les scènes de Coventry pour aller jouer sur celles de Birmingham, situées à une trentaine de bornes de chez eux. C'est là-bas qu'ils vont faire la rencontre d'un musicien de jazz, également manager et gérant du label Big Bear Records, nommé Jim Simpson, qui se montre très intéressé par ces petits jeunes et qui à l'époque s'occupe également d'un autre groupe de Birmingham appelé Earth, qui a changé de nom pour adopter celui de Black Sabbath. En 69, durant une des soirées qu'il organisait, ce Jim Simpson va présenter Indian Summer ainsi que Black Sabbath à un certain Olaf Wiper, créateur du label dédié au rock progressif Vertigo pour la maison de disques Philips. Après présentation des deux formations, Wiper décide d'engager Black Sabbath et confie le groupe aux bons soins du producteur Roger Bain pour l'enregistrement de son premier album qui connaîtra le succès qu'on connaît. De leur côté, les gars d'Indian Summer gardent le moral mais laissent tout de même filer des occasions, comme lorsque John McVie, bassiste de Fleetwood Mac, leur demande de lui envoyer une démo après les avoir entendus faire leur première partie, et qui ne s'exécute pas en pensant qu'ils se foutent leur gueule. Ils ont manqué de pif un peu là. Ils parviennent néanmoins à enregistrer par la suite une démo de deux chansons, Without You et Walking On Down The Road, dans les studios Olick & Taylor, qu'on a déjà évoqué dans l'épisode sur Back Dunkel. Ça fait d'ailleurs deux émissions d'affilée qu'on reparle de ce groupe, c'est marrant ça. Malheureusement, ces démos ne déboucheront finalement sur rien, et au moment de faire un premier bilan, si Bob Jackson et Paul Hooper croient dur comme fer en leur capacité à percer au point de quitter leur job respectif pour se concentrer à plein temps sur le groupe, ce n'est pas le cas d'Alan Hatton, qui choisit de partir pour se consacrer à sa carrière de programmeur informatique. En quête d'un nouveau bassiste, les membres restants jettent leur dévolu sur Malcolm Harker, un jeune étudiant en ingénierie et multi-instrumentiste à ses heures perdues qui connaît Paul et Bob depuis l'époque du Perfume Garden et de l'Acme Patent Electric Band, puisqu'il a participé à leur création. Il prévient toutefois ses camarades qu'il ne pourra pas les accompagner pendant des années, étant donné qu'il est déjà prévu qu'ils reprennent la société de son père dans les 18 mois. Néanmoins, ça ne l'empêche pas de prendre son rôle au sérieux, et son sens aigu des affaires va faire des merveilles, puisqu'il va permettre au groupe de décrocher des dates comme jamais auparavant. Malgré tout, la formation doit de nouveau faire face à un petit couac, le départ de Steve Cottrell, remplacé sans attendre par Colin Williams, un guitariste qui avait fait partie d'un groupe local appelé From the Sun, que les musiciens avaient déjà repéré et à qui ils offrent le poste. Cette nouvelle mouture d'Indian Summer, gonflée à bloc, va passer un peu de temps à répéter à l'école polytechnique de Lanchester, où étudie Malcolm Harker, jusqu'à rencontrer à nouveau Olaf Wiper, travaillant désormais pour la maison de disques RCA et qui vient de lancer un nouveau label au sein de cette dernière, Neon Division. Ce dernier, revenu voir ces petits jeunes qu'il a laissés sur le carreau la dernière fois, mais qui mine de rien l'intéressent, va ce coup-ci leur donner leur chance et les confier, tout comme ça avait été fait pour Black Sabbath, au producteur Roger Bain en vue de l'enregistrement d'un album. Pourtant, cette fois-ci, c'est bien le groupe qui a failli la faire à l'envers à Wiper, puisque Colin Williams, qui lui aussi se démène pour ses camarades, obtient, au moment où le groupe s'apprête à signer avec Neon Division, un contrat très avantageux avec le plus célèbre label Chrysalis, qui était alors la maison de disques de Jethro Tull. Cependant, désireux de respecter la promesse faite à Wiper, les musiciens vont choisir de rester fidèles à ce dernier, séduits par l'idée d'enregistrer avec la même équipe que celle qui a pondu le premier album de Black Sabbath. Tout ce petit monde se rend donc à Londres, au studio Trident, et le disque est mis en boîte en quelques jours, les musiciens enregistrant parfois jusqu'à très tard et dormant certaines fois dans la fameuse camionnette. Finalement, Indian Summer, l'album, sort début 71, et même s'il trouve un écho favorable auprès de la critique, il ne réussit malheureusement pas à se vendre. Plusieurs raisons à cela ont été avancées a posteriori, comme l'échec en soi du label Neon Division, qui n'a jamais vraiment pris auprès du public, celui-ci se présentant alors comme un label underground à destination des étudiants, à une époque où ceux-ci refusaient qu'on leur dise ce qui était bien pour eux et préféraient découvrir des artistes par eux-mêmes. Bon après, j'ai quand même tendance à dire que ça a toujours été le cas, mais admettons. La preuve en tout cas du désintérêt des gens pour les productions de Neon Division, c'est que le label ne sortira au total qu'une dizaine d'albums avant de couler quelques années plus tard, en partie également à cause de problèmes de fabrication interne. Malgré tout, la maison de disques va pousser le groupe à sortir un 45 tours en lui proposant d'enregistrer une reprise de Ride a Pony de Free, mais cette proposition est refusée par les musiciens qui préfèrent jouer leur propre musique. Ils enregistrent donc les deux morceaux Walking on Water et Firewater, mais du fait d'un manque de soutien de la part de RCA, le single ne verra jamais le jour. Et par la suite, Malcolm Harker va quitter le groupe comme il l'avait annoncé. Il est remplacé pour la tournée de promotion qui suit la sortie de l'album par Wes Price, un bassiste qui avait officié quelques années plus tôt avec les Sorrows, un groupe qui avait obtenu 2-3 succès mineurs au niveau national, et qui va les accompagner jusqu'en Suisse où le groupe a réussi à trouver une dizaine de dates. Cependant, la maison de disques continue d'ignorer ses poulains, les laissant même se rendre chez les Helvètes par leurs propres moyens, et ne leur propose à aucun moment de tenter d'enregistrer un deuxième album. Démoralisés par tout ça, Wes Price et Colin Williams décident finalement d'abandonner après la fin de la tournée, et Bob Jackson et Paul Hooper, n'ayant pas le courage de poursuivre après la défection des deux autres membres, mettent un terme à l'aventure Indian Summer en 1972. We'll be right back. Après ça, chacun des artistes va suivre son propre chemin. Wes Price et Colin Williams vont se reconvertir dans l'automobile, tandis que Malcolm Harker a repris la société de son père, mais a tout de même construit sur son temps libre son propre petit studio d'enregistrement, dans lequel le tout jeune Chris Rea, futur interprète de Josephine, On the Beach et The Road to Hell, enregistrera ses premières démos. De leur côté, Paul Hooper et Bob Jackson vont rester dans le domaine musical. Hooper va rejoindre le groupe The Dodgers en 76, dans lequel il va retrouver Jackson, qui en est le fondateur, avant de rejoindre à la fin de la décennie le groupe Smacky, puis The Fortunes au début des années 80, un groupe qui avait eu pas mal de succès dans les années 60 et avec qui il restera jusqu'en 2011. Depuis, même s'il déclare être en semi-retraite, il a continué à jouer avec le groupe Prélude et fait désormais partie du West Coast Band, un groupe qui fait des reprises d'artistes américains tels que Fleetwood Mac, les Eagles, Steely Dan ou les Byrds. Néanmoins, c'est tout de même Bob Jackson qui aura eu la carrière la plus florissante après la fin d'Indian Summer, puisque l'année suivant sa séparation, il va créer une nouvelle formation appelée Ross, en compagnie d'Alan Ross, connu à cette époque pour avoir joué sur les albums solo du bassiste des Who, John Entwistle. Ce groupe sortira deux albums en 1974 avant de se séparer, et Jackson va après ça rejoindre le célèbre groupe Badfinger pendant quelques mois, jusqu'au suicide de l'un de ses fondateurs, Pete Ham, qui va entraîner la mise en sommeil de la formation. En 1976, ils fondent donc The Dodgers, qui va sortir plusieurs singles et un album en 1978, avant de disparaître à son tour, et on le retrouve par la suite au sein de The Searchers et de The Byron Band, groupe créé par l'ancien chanteur d'Uriah Heep au début des années 80. Puis dans le nouveau line-up de Badfinger, qui connaîtra lui aussi une fin tragique avec le suicide d'un autre de ses fondateurs, Tom Evans. Les oiseaux de mauvais augure diront que ce mec porte malheur, mais promis juré, il n'y a aucun lien. Au milieu des années 90, il va à nouveau retrouver son ancien compère Paul Hooper en rejoignant lui aussi The Fortunes, avec qui il va sortir deux nouveaux albums, et qui quittera finalement en 2018, sans doute pour se consacrer au nouveau line-up de Badfinger qu'il a mis en place en 2015, et qui continue de tourner à l'heure actuelle. Bref, tout ça pour dire qu'Indian Summer, même s'il n'a sorti qu'un seul album, a tout de même su faire quelques petits dans les années qui ont suivi sa dissolution. Et qui sait ce qui aurait pu se passer si jamais c'est ce groupe qui avait été choisi par Wiper pour rejoindre Vertigo et pas Black Sabbath. Peut-être qu'aujourd'hui c'est Indian Summer qui serait célébré, et quand on entend la qualité de morceaux comme Emotions of Men, on se dit que franchement, il l'aurait mérité.
Lost as a city in the heart of the
Indian Summer, l'album, comporte au total 8 morceaux, dont un instrumental, From the Film of the Same Name, et dure quasi 50 minutes, sa longueur s'expliquant par la durée des chansons, la plus courte avoisinant les 5 minutes 30 et la plus longue les 6 minutes 50. Si l'écriture et la composition de l'ensemble des titres est attribuée au groupe dans sa globalité, ceci étant crédité Indian Summer, ils sont néanmoins tous issus à la base de l'esprit de Bob Jackson seul, qui créait sur son piano des ébauches, avant qu'elles ne passent entre les mains des autres musiciens qui les retravaillaient alors en sa compagnie pour nous donner le résultat final. De fait, on a affaire à des morceaux sur lesquels l'orgamond du pianiste-chanteur tient souvent le premier rôle en compagnie de la guitare. Musicalement, on se retrouve donc à écouter une sorte de hard rock progressif que la voix de Jackson, capable de nous sortir des notes de haute volée, enrobe à merveille, celle-ci étant délicieusement éraillée juste ce qu'il faut et rappelant parfois la manière de chanter de David Byron, le premier chanteur de Uriah Heep. Personnellement, elle me rappelle aussi un peu celle de Leroy Gomez, le chanteur de Santa Esmeralda, dans un tout autre genre, mais là c'est purement subjectif et je pense être tout seul dans ma tête. Les chansons ne sont en tout cas pas avares en changement de rythme et d'ambiance. I've Changed Again, par exemple, commence comme une chanson posée, à l'ambiance un peu sombre, voire gothique, avant de partir, arriver à sa moitié, sur une explosion mélodique dans laquelle s'affrontent les percussions et les claviers en tout genre. De manière générale, on peut même dire que le groupe aime les grandes passes d'armes entre instruments, car on les retrouve dans pas mal de morceaux, la guitare participant elle aussi joyeusement régulièrement. La seule véritable exception étant la chanson Secrets Reflected, beaucoup plus calme et envoûtante, malgré les passages de batterie plus imposants qui la ponctuent par moments. Bref, un disque qu'on peut qualifier d'énergique dans sa grande majorité. On peut dire en tout cas que nos musiciens ont été bien secondés pendant la production du disque du côté de la technique, puisqu'ils ont pu profiter de l'aide du producteur Roger Bain, encore assez jeune dans le métier à cette époque, mais qui venait cependant déjà de travailler sur les 3 premiers albums de Black Sabbath, avec le succès qu'on leur connaît. Il sera par la suite aux commandes de quelques albums de Barclay James Harvest et œuvrera auprès de Judas Priest à leur début, mais avec moins de succès cependant, puisque le groupe ressortira grandement insatisfait de cette collaboration. À côté de ça, Indian Summer a pu profiter également du travail du jeune ingénieur du son Robin Cable, qui, alors qu'il n'avait commencé à bosser au studio Trident que depuis 69, avait déjà à son actif plusieurs chanteurs ou groupes qui allaient par la suite avoir un certain succès, comme T-Rex, Van der Graaf Generator, Elton John ou Genesis pour ne citer que. Et par la suite, il continuera d'œuvrer pour Carly Simon, Queen, Bonnie Tyler, Chris de Burgh et même Gilbert Montagnier sur son premier album, celui avec la chanson The Fool, là. Enfin, on peut également parler de la pochette, qui montre un petit renard près d'un cactus sur fond de paysage aride en négatif, et qui est l'œuvre de Keith, un photographe et designer qui avait déjà pondu les pochettes des 3 premiers albums de Black Sabbath et celle du premier disque de Coliseum, et qui en créera d'autres plus tard pour Kate Bush, Status Quo, Rod Stewart et Greenslade. Bref, une petite équipe assez compétente dans l'ensemble, et je mentais pas quand je disais que c'était littéralement la même team que celle qui avait officié sur le premier disque de Black Sabbath. À sa sortie, le disque a été pressé dans plusieurs pays, parmi lesquels le Royaume-Uni bien sûr, mais aussi l'Allemagne, les États-Unis et le Japon. Cependant, une fois ses premières versions sorties, ça a été le calme plat jusqu'en 1993, date de la toute première réédition CD par le label allemand Repertoire Records. Et la première ressortie vinyle ne vit le jour qu'en 2002, à l'initiative du label italien Akarma, qui en a également profité pour proposer sa propre version CD. Depuis, l'album a été réédité plusieurs fois sur plusieurs supports et par des maisons de disques différentes, ce qui devrait le rendre en théorie assez facilement trouvable, ce qui est vrai, mais ces derniers temps, les sites de revente habituels semblent un peu avoir craqué leur slip au niveau des prix, donc mieux vaut bien fouiller sur internet. A noter toutefois une édition particulière de l'album sortie en 2016 par Record Collector Magazine, se présentant avec une pochette alternative et proposant en plus des premières démos des titres qui finiront sur l'album original, plusieurs des démos enregistrées à l'époque par le groupe et qui ne sont jamais sorties, comme Walking on Down the Road ou Walking on Water. Cette version n'est cependant sortie qu'en édition limitée en vinyle et est donc difficile à trouver. Une version CD sortie au Japon a également vu le jour, mais c'est pas mieux de ce côté-là niveau code de rareté. Bref, Indian Summer est un album que je ne peux que te conseiller. De par ses sonorités progressives, mêlées à cette sorte de proto-Eevee un peu doux, il m'a personnellement plu dès la première écoute, et je regrette que le groupe n'ait pas réussi à percer à l'époque pour voir ce qu'il aurait pu nous offrir par la suite. Car pour un premier album, je trouve qu'il y avait déjà tous les ingrédients pour de futurs succès, et peut-être classiques du hard rock. Bien sûr, certains de ses membres ont réussi à faire carrière, mais discrètement, et peut-être qu'un deuxième album aurait pu les propulser vers le succès sous cette bannière, on le saura jamais. En tout cas, c'est sur ces hypothèses que je vais te quitter, et ouais, je sais, c'est triste, mais je vais pas te laisser tout à fait seul, puisqu'avant de partir, on va se lancer un petit glimpse de derrière les fagots. Tu vas voir, ça déménage. Allez, à la prochaine, ciao !